الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه رواه البخاري والمسلم شفير الإسلام. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir quelques instants après la salat al-Isha pour écouter quelques paroles en rapport avec les ahadith nabawi, les paroles du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, c'est l'avant-dernier hadith du chapitre concernant le fait d'être véridique, Bab al-Sidr, qu'on avait commencé il y a pas mal de temps. Et donc il reste deux hadiths pour compléter ce chapitre. Il y a ce hadith et puis un dernier. Et Inch'Allah Azza wa Jal, ce soir on essaie de terminer ce chapitre. Ce hadith que nous venons de citer, s'il vous plaît, Jazakallah, c'est un hadith dans lequel Abu Sufyan radiallahu anhu relate sa conversation qu'il a eue avec Hirqil. Hirqil qui était un des empereurs romains, qu'on peut, je pense, traduire par Hercule. Mais ce n'est pas Hercule dans le sens que Hercule, super-héros, c'était un empereur romain. Et donc, Abu Sufyan va à la rencontre de cet empereur romain qui lui pose des questions concernant l'islam. Et si on remonte un peu à l'historique de la propagation du dîn, nous savons que c'est à partir du traité de Hudaybiyah, à partir du traité de Hudaybiyah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu enfin faire la da'wa avec les pays, j'allais dire les pays étrangers, les pays en dehors de la péninsule arabe. Parce que jusqu'au traité de Hudaybiyah, malgré le fait que les musulmans avaient fait l'émigration à Madina, bien sûr avant, à Mecca, il était même pas envisageable de prêcher l'islam, parce que nous savons quelle était la situation des musulmans à Mecca. C'est lorsqu'ils ont pu s'installer, ils ont fait la hijra, ils ont émigré à Madina, à Nabawiya, qu'ils ont pu propager l'islam. Mais pendant les 5, on pourrait dire les 6 premières années de l'Hégire, le souci était qu'il y avait des Quraysh en permanence, des Quraysh, les ennemis de Mecca, qui essayaient d'attaquer les musulmans, de se venger. Ils n'avaient pas digéré que le prophète sallam ait pu quitter, on peut dire sous leur barbe, parce qu'ils étaient barbus, même à l'époque, même s'ils n'étaient pas musulmans, et puis quitter Mecca avec une telle facilité déconcertante, alors que toutes les tribus s'étaient associées pour monter la garde et tenter de le tuer s'il quittait son domicile pour aller rejoindre les musulmans à Madina. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, personne ne l'a vu, et on pourrait dire que les Quraysh étaient un peu la risée de toutes les tribus arabes. Comment quelqu'un peut quitter votre ville, on ne dit pas un village, c'était Makkatul Mukarrama, peut quitter votre ville sous vos yeux alors que vous le surveillez et aller faire un voyage de nos jours nous parlons de 450 km. Mais à l'époque, avec les chevaux et tout, c'était considéré comme un très grand voyage. Et qu'en plus, vous l'avez laissé sortir et durant ce grand trajet qui dure plusieurs jours, vous n'avez même pas été capable de l'intercepter. Donc c'était vraiment une honte, un affront pour les Quraysh, soi-disant la plus grande tribu, la plus puissante des tribus de la péninsule arabe, plus respectée des gens. Donc il y avait ça qui les gênait. Il y avait le fait aussi que la plupart des musulmans à Mecca étaient soit leurs propres enfants, parce que dans d'autres circonstances, on avait vu dans d'autres programmes que la majorité des personnes qui s'étaient converties à l'islam, c'était des jeunes. C'était des jeunes. Tous les sahabins dont vous mémorisez le nom, ils ont connu le plus haut degré de leur iman quand ils étaient jeunes, à l'âge de 18, 19 ans. Certains à partir de 15 ans. Dans cette tranche de 15, 18, 20, 25, 30. Les plus âgés, en guillemets, c'était qui? Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Qui avait quel âge, selon vous, lorsqu'il a accepté l'islam? D'après vous. Si on réfléchit un petit peu. À quel âge croit Samaï le Nubuwa, la prophétie? Comme tous les prophètes, à 40 ans. Et Abu Bakr avait, si je ne me trompe pas, un ou deux ans. Je crois un an de moins que le prophète sallam. Et il a immédiatement embrassé. C'est-à-dire qu'à l'âge à peu près de 39 ans, Boubacar al-Siddiq a accepté l'islam. On pourrait dire que c'était un des plus anciens. Et bien sûr, les parents de, subhanallah, Suhaib al-Rumi, si je ne me trompe pas, oui, c'est... Non, de Ali Yassir, les parents de Ali Yassir qui étaient un peu plus âgés. Mais on va dire la majorité des sahaba qui s'étaient convertis à l'islam, c'était des jeunes. Donc c'était des enfants des grandes tribus arabes. Donc ils n'avaient pas digéré que leurs enfants aient désobéi. Ils sont allés à l'encontre de la religion des grands-parents. Ils ont renié l'adoration des idoles qui étaient perpétuées depuis des générations et des générations pour suivre cet homme. Ils n'acceptaient pas également que leurs esclaves s'étaient enfuis, avaient quitté leur maître pour lire le shahada et rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait plein de choses qui les gênaient. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant tout le monde, faisait comprendre aux gens qu'il n'y a aucun intérêt à se prosterner devant de la pierre. Qu'il n'y a aucun intérêt à se prosterner devant un arbre, de se prosterner devant une statue que vous construisez par vos propres mains. La logique humaine les poussait vers ce raisonnement. Ils savaient très bien que finalement, ce qu'ils sont en train de tailler, de façonner, ben, ça ne leur procure rien. Mais comme c'était les grands-parents, les arrière-grands-parents qui avaient commencé à adorer ces idoles, pour eux c'était la tradition, il fallait continuer. Et même si de l'autre côté ils voient la vérité, mais il y a des gens qui ont le cœur bouché. Le cœur malheureusement, il n'y a pas de lumière. Un cœur qui ne peut être atteint par la lumière parce qu'Allah n'a pas écrit pour eux là, la guider. Et donc ces gens-là, pour différentes raisons, ils en voulaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui fait que les premières années à Madina, ils propageaient l'islam, à l'intérieur de la ville, les tribus autour, mais il restait cette crainte d'un moment à l'autre que Quraysh pouvait attaquer. Le premier clash qui a eu lieu, c'était en l'an Badr, en l'an 2 de l'Hégire, d'accord ? Et l'année d'ensuite, il y a eu la vengeance, c'est-à-dire qu'il n'était pas tranquille. Mais le traité de Hudaybiyah, pour beaucoup de gens, le traité de Hudaybiyah, c'était un échec. Beaucoup de personnes qui voient le traité de Hudaybiyah, les musulmans qui vont à Mecca pour faire le Umrah et tout, et ils sont refoulés, ils doivent revenir l'année prochaine, il y a un traité qui est signé, traité largement défavorable aux musulmans, mais le prophète savait qu'il y avait là la nusrat d'Allah, même si en apparence ça avait l'air mauvais pour les musulmans. Et un des gros avantages, on revient après cette introduction, du traité de Hudaybiyah, c'est qu'il y avait une trêve de 10 ans. Ça, c'est les bases de la sirat. Les enfants, ils doivent connaître, ils vont à la madrasa. 10 ans, il y avait un traité de paix. Quraysh et musulmans n'avaient pas le droit de s'affronter. Et on peut se dire que oui, mais bon, ben, ça sert à quoi? Oui, ça sert à quelque chose. C'est énorme, ça. Un traité de paix de 10 ans, ça permet au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'organiser la da'wah. Et immédiatement après le traité de Hudaybiyah, ils ne se sont pas dit que maintenant on est en paix, on peut se reposer, on peut dormir à l'ombre des dattiers, tranquille, on pratique la religion de la Madina. Pour ça, immédiatement après le traité de Hudaybiyah, il a vu qu'il y avait vraiment la paix qui s'était installée entre lui et les Quraysh. Le Prophète a immédiatement nommé des Sahaba pour aller porter le message de l'islam aux Perses, aux Romains, en Égypte, à différents rois, à différents empereurs. Donc ça c'est l'historique, d'accord ? Et donc Abu Sufyan est parti voir Hirqil, c'est-à-dire l'empereur romain, qui était dans la région de Asham. Et quand on dit Asham, c'est quel pays ? La Syrie, la Palestine, la Jordanie, c'est-à-dire tous ces pays, Wallahu musta'an, qui connaissent des situations extrêmement compliquées à notre époque, sur le plan politique. Mais, parenthèse, c'est de cette région que viendra l'aide d'Allah. Ça veut dire que les troubles que nous voyons en Syrie et dans les pays aux alentours, au Proche-Orient, ça c'est prévu ça. Mais c'est prévu également que de ces endroits-là viendra la nusrat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'homme que tout le monde attend, Al-Mahdi, pas Al-Mahdi, on appelle aussi le Mahdi, Al-Masih, Isa alayhi salam, lorsqu'il reviendra, ce sera de quelle ville ? Dimashq, de la mosquée au minaret blanc de Damas qui est en Syrie. Donc c'est de cet endroit que viendra la plus grande nusra. La plus grande nusra, la plus grande aide d'Allah pour l'humanité viendra de la Syrie, et avec la venue de Isa alayhi salam, Dajjal c'est une formalité. Dajjal, il meurt en voyant Isa alayhi salam. Mais Allah permet à Isa alayhi salam de le tuer de ses propres mains pour que les gens voient que c'était un imposteur, que c'était pas un dieu comme il proclamait. Isa alayhi salam rencontre Gog et Magog, Ya'juj, Ma'juj, il lève les mains et Allah envoie son aide et détruit ses créatures. ces créatures, le corps, le cadavre, en train de pourrir dans le monde parce qu'ils sont plus nombreux que la race humaine. Isa alayhi salam lève une seconde fois les mains, Allah envoie sa nusra et il y a une pluie torrentielle qui vient et qui nettoie la surface de la terre, et Allah envoie une baraka comme jamais le monde, comme jamais l'humanité n'a cru. C'est-à-dire, c'est un homme, on peut le dire, providentiel. Et cet homme va descendre, pas dans n'importe quel endroit, dans une terre bénie. Une terre qu'Allah Ta'ala a bénie, une terre des Anbiya, la région de Hasham, et plus particulièrement la Syrie, et cette ville de Damas, où la mosquée au Minari Blanc existe déjà, existe toujours, on va dire, à notre époque. Donc, les Romains étaient basés dans cette région du monde. Et Herqal, qui était le roi, l'empereur, on pourrait dire, des Nassara, des chrétiens. Et cet homme était quelqu'un de poli, d'éduqué. Contrairement à d'autres empereurs, si je ne me trompe pas, c'était les Perses qui avaient pris, oui, c'était les Perses qui avaient pris on pourrait dire le parchemin que le prophète avait fait écrire par des sahaba pour l'inviter vers l'islam. Il avait déchiré. Il avait déchiré et Allah Ta'ala l'a puni. La sorte que son royaume a été déchiré. Comme il a déchiré le parchemin que le prophète l'a fait parvenir, son royaume a été déchiré. Il y a eu une implosion au sein de la famille en guillemets royale chez les Perses, et l'empereur Perse a été assassiné par son propre fils. Donc son mulk a été détruit par rapport à ce geste, comment il a maltraité l'envoyé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment il a donné peu de considération à ce message. Herqal était, l'empereur romain était un homme beaucoup plus intelligent, beaucoup plus posé. Il a reçu correctement Abu Sufyan comme on doit recevoir un ambassadeur, un émissaire. D'accord ? Et donc, il avait cette distinction que les autres peut-être n'avaient pas, c'est qu'en tant que chrétien, il avait une connaissance de la Taurat et du Injil. Le livre révélé à Isa alayhi salam, la Bible, et le livre, la Taurat révélée à Hazrat Moussa alayhi salam. Donc, c'était un homme intelligent, instruit, éduqué. Il avait les notions des deux grandes religions monothéistes de l'époque, le judaïsme et le christianisme. Donc, il convoque Abu Sufyan et il lui pose des questions concernant l'islam. Et il était intéressé. Mais malheureusement, par rapport à l'influence, les gens qu'il y avait autour, il n'a pas accepté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah n'avait pas écrit pour lui la hidayah, mais il était vraiment à deux doigts d'accepter, mais c'était l'assemblée, on va dire, les députés, qu'on pourrait dire, les gens qui l'entouraient, qui ont fait pression qu'il n'a malheureusement pas accepté l'islam. Mais dans la conversation, c'est ce qui nous intéresse, Herqal avait demandé à Abu Sufyan, dis-moi, qu'est-ce que cet homme vous enseigne? Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseigne aux musulmans? Abu Sufyan dit, cet homme nous dit, U'budullaha wahdahu wa la tushriku bihi shay'a. La chose de base, ça c'est la ilaha illallahu Muhammadu Rasulullah. U'budullah, adorez Allah uniquement, wahdahu, wa la tushriku bihi shay'a, ne lui donnez aucun associé. Aucun associé, ni parmi les vivants, ni parmi les morts, ni parmi les esprits, ni parmi les statues, ni le soleil, rien du tout. Et ça c'est la religion du tawhid, du monothéiste. Et ça, c'est la religion également des hommes libres. C'est la religion des hommes éclairés, qu'on ne voue aucun culte à un être humain. On ne se rabaisse devant personne. On se rabaisse que devant Allah. On ne se courbe devant personne. Parce que celui qui est roi, qui est millionnaire, qui est milliardaire, qui est empereur, c'est avant tout, c'est un être humain. Qui mange, qui boit, qui va aux toilettes comme nous. Qui fait des impuretés comme nous. C'est un makhlouq, un être humain. Et une créature ne se soumet, ne se prosterne jamais devant une créature. Une créature se prosterne, se soumet uniquement devant son créateur, devant Allah. Ça, c'est la religion de la liberté. C'est pas comme dans d'autres civilisations où on parle beaucoup de liberté, mais les gens étaient soumis aux empereurs. On se prosterne, on se baisse, on se courbe, on n'a pas le droit de faire des remarques. Alors que dans le dîn, c'est une religion de nasiha. Le mu'min est en droit de conseiller son amir, son responsable, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La seule personne à laquelle on se soumet à 100%, c'est Allah. Donc ça, c'était la base. « An ya'budullaha wa la yushriku bihi shay'a » Et différents versets qui disent « Wa ma arsalna min qablika min rasoulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun » Et c'est le même message qu'Allah a accordé à tous les anbiya alayhim salatu wassalam, an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut, d'adorer Allah et de s'éloigner de tout ce qui mène vers le polythéisme. Toute forme d'association à Allah, hein, on doit complètement enlever. Et quand on lit le kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hein, ça c'est les bases qu'on enseigne aux enfants à la madrasa, et ce kalima, on appelle ça kalima, hein, le shahada, est composé de deux parties. La ilaha et illallah. La ilaha, la, ça veut dire non, il n'y a pas. On appelle en arabe en aqida an-nafi, le fait de renier. Et illallah, sauf Allah, à l'exception de Allah, on appelle ça al-ithbat, c'est l'affirmation. C'est-à-dire que la première étape, les ulama aqida expliquent, la première étape pour avoir une vraie foi, c'est de refuser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Que ce soit les statues, d'autres divinités ou les prophètes qui ont été considérés comme étant fils de Dieu ou ayant des pouvoirs divins, a'oudou billah, tout ça on dit que ça c'est du batil. Ce sont des créatures d'Allah, mais ce ne sont pas des dieux, na'oud billah, où ils n'ont aucun sifat, aucune qualité divine. Ça, c'est la première étape pour avoir une foi complète. Refuser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Faire table rase sur toutes les autres choses. Et ensuite, on dit illallah. Il n'y a que Allah qui est digne d'être adoré. Ça, la vraie traduction de la ilaha illallah, alhamdu rasulullah, que personne n'est digne d'être adoré, digne d'être. Yani, yastahiq, personne n'a le droit, ne mérite l'adoration à l'exception à part Allah. Parce que le seul qui mérite d'être adoré, c'est celui qui a créé. C'est le khaliq, c'est le raziq, celui qui donne la nourriture, c'est celui qui donne al-muhyi, celui qui donne la vie, al-mumid, celui qui donne la mort, celui qui donne la santé, celui qui donne la maladie, celui vers lequel on retourne. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, celui vers lequel on retourne quand on meurt. Et qui nous demande des comptes sur notre vie, et qui prend la décision, est-ce que lui il va au paradis ou il va en enfer. C'est uniquement pour lui qu'on se prosterne, c'est uniquement avec lui qu'on lève les mains, on demande droit, on demande de l'aide. Ça c'est la religion du monothéisme, mais c'est en même temps, comme on a dit tout à l'heure, la religion de la liberté. Parce que toutes les créatures sont égaux, égales. Le seul qui est au-dessus, c'est le créateur, et il n'y a qu'un seul créateur. Et ensuite, deuxième phrase, un deuxième principe que Abu Sufyan, hein, il explique à l'empereur romain, wa kana ya'muruna bis salat. Immédiatement après le tawhid, l'unicité d'Allah, il dit que et notre prophète nous ordonne d'accomplir la salat. Et les ulama, les muhaddithis nous expliquent que c'est pourquoi est-ce qu'il a cité ça en priorité, parce que ça c'est la base. Juste après le iman, il y a le pilier le plus important de notre dîn, c'est l'accomplissement de la salat. Tellement important que le prophète alayhi salat wa salam dit dans un hadith rapporté par Imam Tirmidhi, al ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Elle dit la frontière, on pourrait dire, qui existe entre nous et eux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans leur cœur, c'est la salat. Celui qui le délaisse, il a fait le kufr. Celui qui abandonne sa salat, il quitte le din. C'est pour ça que les sahaba, les tabi'in, ils expliquent que كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Les sahaba ne considéraient aucune autre action qu'un musulman abandonne comme étant synonyme de kufr, à l'exception de la salat. La seule action que tous les sahaba étaient d'accord sur le fait que si tu le délaisses, tu deviens kafir, c'est la salat. Donc ça c'est vraiment c'est le lien entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est également le pilier qui se répète le plus de fois. La zakat c'est une fois par an. Le jeûne c'est 30 ou 29 jours par an, c'est-à-dire un mois sur 12. Le hajj c'est une fois dans la vie, l'obligation. Mais la salat, c'est 5 fois par jour, depuis qu'on est baligh jusqu'à la mort. Et c'est vraiment tout le sens de notre soumission à Allah, de notre adoration à Allah, se passe dans la salat. La salat, c'est également une tarbiyah pour le mu'min. Je vous ai déjà expliqué dans le passé que quand un musulman fait la salat, hein, il se tient debout, il est immobile, il contrôle ses membres, il contrôle ce qu'il dit. Si quelqu'un dans la salat commence à chanter ou lire un hashid en arabe, sa salat est annulée. D'accord ? Il contrôle également ses pensées pour Allah. Il essaie de rester concentré en intégrant le fait qu'il est devant Allah et qu'Allah est en train de l'observer. Et l'objectif à long terme de la salat, c'est « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » La salat vous éloigne du turpitude et du blâmable, c'est-à-dire du péché. Quand un mu'min se contrôle à 100% dans sa prière, il contrôle, comme on dit, ses gestes, ses paroles, son cœur, ce qu'il regarde, ce qu'il écoute, etc., etc. Mais l'objectif, c'est que dans sa vie de tous les jours, également, il a le même comportement. Parce que la salat est avant tout une adoration, bien sûr, mais également un tarbiya, une éducation spirituelle pour le cœur du musulman. Et autre hadith également, un rapporté par Imam Muslim, hadith de Jabir radiallahu anhu, qui rejoint ce qu'on vient de dire, « Bayn al-rajuli wa bayn al-kufri wa shirki tarku salat ». La frontière qu'il y a entre un homme, le kufr et le shirk, c'est la salat. C'est-à-dire quand quelqu'un commence à abandonner la salat, c'est qu'il est en train de tomber, de sombrer vers le kufr et le shirk. Donc on comprend que la salat, c'est le prophète salam a insisté que « Mourou awladakum bis salat wa hum abna'u » Sab'a, ordonnez vos enfants, incitez vos enfants à prier à l'âge de 7 ans. C'est le seul ibadah pour lequel le prophète a fait targhib, inciter à la pratique avant que l'enfant ait balir. Un enfant, normalement, il est balir à quel âge? 13, 14, 15. Mais la badri, bien avant, 3 ou 4, 5, 6, 7 ans avant, le prophète alayhi salatu wassalam demande aux parents déjà de réveiller vos enfants, qu'ils fassent leur salat à partir de 7 ans. Et le prophète m'a dit, maintenant, il faut les éduquer de manière plus stricte si à l'âge de 10 ans, ils ne le font pas. À l'âge de 10 ans, on considère que leur salat est presque obligatoire. Il n'y a pas, personne n'est balir à 10 ans. Non, c'est impossible, c'est très rare. Mais malgré que l'enfant n'est pas balir à 10 ans, le prophète m'a dit que à l'âge de 10 ans, les parents doivent sévir si l'enfant ne fait pas ses 5 prières. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, le musulman prend l'habitude de se prosterner devant Allah. Ça, c'est important. Parce que ce front-là a été créé pour être posé sur le sol. Ce front-là a été créé pour se prosterner devant Allah. Ce corps a été créé pour être en sijda devant Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Comment est-ce qu'un musulman peut enchaîner des jours, des mois, sans se prosterner une fois? Comment est-ce qu'un musulman peut se dire que moi je viens uniquement à la salat al-jum'a, et puis je viens pendant le mois de Ramadan? نَعُوذُ بِاللَّهِ. Et on a espoir que ce Allah Rabbul Izzah, il nous accorde le paradis, alors qu'on ne se prosterne qu'un mois sur 12 pour lui, qu'il nous accorde un Jannah pour l'éternité. Chers frères, la salat, c'est vraiment le signe que nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, d'où l'importance, les vertus, Allahu Akbar, les vertus innombrables sur la salat, et également les tarhib, les mises en garde. La seule action pour laquelle on dit kufr, quand on dit kufr, c'est vraiment on tient le carton rouge, grave ça. Le kufr, c'est la pire des choses, c'est pire d'iman. Et la seule action pour laquelle on tire le carton rouge, c'est quand quelqu'un délaisse sa salat. La troisième chose, il continue, وَكَانَ يَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ. Et c'est là on appelle le shahid, c'est ce qui nous intéresse. C'est en rapport avec le chapitre, et on dit que notre prophète nous conseille, pardon, d'être toujours véridique. Et ça rejoint le verset de base qu'on avait cité au début du hadith. « Ya ayyuhalladhina amanu taqullah »« Oh vous qui avez la foi, ayez la crainte d'Allah »« Wa kunu ma'as-sadiqin » et soyez avec les véridiques. Et comme on avait expliqué, être véridique, c'est avec Allah Azza wa Jal par rapport à nos engagements, mais également « Wa sidqun ma'ibadillah » être véridique, sincère et honnête avec les gens d'une manière générale. Et on avait assez développé ce thème-là, mais par opposition à cette qualité qui doit être intrinsèque, qui est propre aux musulmans, il y a par opposition le munafiq, l'hypocrite. Si on n'a pas cette qualité d'être véridique, soit on est véridique, soit on est hypocrite. Il n'y a pas une situation intermédiaire. Soit on est toujours dans la vérité, on dit toujours la vérité, on est honnête, franc, sadiq, ou alors on est munafiq. Car le prophète m'a dit que ayatul munafiq thalath, il y a trois signes qui distinguent l'hypocrite. Et parmi les signes qu'il a dit, idha haddatha kadhib. Lorsqu'il parle, il ment. Tandis que le mu'min, jamais, jamais un mensonge ne sortira de sa bouche. Autrement, si quelqu'un ment, et comme on l'a vu dans d'autres hadiths, si une personne ment une fois, il va continuer, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala ordonne aux anges de l'inscrire parmi les grands, les kadhab, parmi les grands menteurs. Ça, c'est la pire des choses. Lui, quand une personne ment une fois, très souvent, ce premier mensonge va amener un deuxième mensonge. Parce que si quelqu'un a pu se tirer d'une situation, compliqué par un mensonge, il va se rendre compte que j'ai pu m'en sortir. Donc dans une autre situation, il va faire pareil. Il va enchaîner comme quelqu'un qui a volé une première fois. Très souvent, il a vu qu'il a pu voler de le portefeuille de la personne 20, 50 euros. Il a dit que personne ne m'a vu, j'ai pas été pris. Une autre fois, il va refaire, et il va penser que la vie peut aller comme ça, je peux devenir riche comme ça, jusqu'à ce qu'on l'attrape. Donc quand quelqu'un rentre dans ce cercle vicieux, très souvent, il ne s'arrête pas. Et pareil pour le mensonge. Donc, wakana, on va aller un petit peu plus vite là. Wakana ya'muruna bisidqi. Hada. Et troisième, quatrième, ou cinquième même, que le prophète alayhi salat wa salam a enseigné que Abu Sufyan, avant-dernier, qu'il rapporte, c'est wal'afaf. Wal'afaf, ça vient du mot al'ifa. Al'ifa, on pourrait traduire par la chasteté. Parmi les principes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné aux sahaba dès le début de l'islam, c'est la chasteté. Le fameux verset « Wala taqrabu » Taqrabu quoi ?« Mal al-yatimi » Oui, ça aussi. « Wala taqrabu zina »« Innahu kana fa'isha » Allah Azza wa Jalla, le Coran, ordonne aux musulmans de s'éloigner de l'adultère. Allah Ta'ala n'a pas dit « Wala taznu » Allah Ta'ala n'a pas dit aux musulmans, n'accomplissez pas l'adultère. Non. Wala taqrabu, ne vous approchez pas de l'adultère. C'est-à-dire, tout ce qui tourne autour de l'adultère, tous les préambules, on pourrait dire, de l'adultère, ça commence par la mixité. Ça, c'est le premier des dangers. Et ça, malheureusement, Wallah Musta'an, c'est une fatalité. C'est devenu un ciment de la société. On parle de mixité. Mais il ne faut pas se dire que quand on est contre la mixité, c'est qu'on est misogyne, qu'on n'aime pas les femmes. Non. Mais nous voyons dans les couples, nous voyons dans la société combien de couples mariés, ils voient leur ménage brisé parce que le monsieur a une maîtresse ou parce que la femme a un amant. Et ça, c'est devenu quelque chose de courant. Tellement courant que dans les films, dans les séries, tout ça, c'est banalisé. C'est devenu presque comme quelque chose d'humoristique. En tout cas, c'est normalisé. Qu'une femme ait des relations avec un autre homme dans son travail ou avec ses collègues ou autre, ou que le mari trompe sa femme, il va en voyage d'affaires. Ça, c'est des trucs qu'on voit dans les films. Il va en voyage d'affaires, après, il s'abat, pour rester correct et poli, il s'amuse à droite, à gauche, il pique un peu, il bec un peu partout. Après, il revient tranquille, comme un petit oiseau vient de son nid, ça va, chérie, tu vas bien, les cadeaux, bref. Dans tous les films, on voit ça. C'est banalisé, c'est normalisé. Mais est-ce qu'un homme, il tolère? Et c'est par exemple là, na'oud billah, là il est 20h, il est 21h, d'accord? Je m'appelle Ishaq, un personnage fictif. Ishaq est marié avec Fatima. Si on dit à Ishaq, tu es à 21h, ta femme a un rendez-vous avec Jean-Paul qui habite en face, et là elle est en train de faire l'adultère avec Jean-Paul, et puis elle revient, elle te sert ton repas. Est-ce que humainement c'est acceptable? Quand on parle d'ouverture d'esprit, d'épanouissement de la sexualité, toutes ces bêtises-là. Mais est-ce qu'un mari, un homme, un rajoul, un homme avec un Z, est-ce qu'il accepte de savoir que ma femme est en train d'avoir des relations intimes avec le voisin, avec d'autres personnes, mais après elle revient, elle restera fidèle? Aucun être humain n'accepte ça. Iman ou pas iman, ça c'est quelque chose de naturel de le cœur qu'on appelle al-rira. Al-rira, c'est l'amour propre. Quelqu'un qui n'a pas d'amour propre, là il fait ce qu'il veut. Là on sombre dans les pires des péchés, comme ça existait à l'époque de Lot alayhi salam, ou un peu plus développé. Là on sombre vers les couples qui tendent vers, vous savez, c'est, comment on appelle ça, libertinage ou échangisme, trucs comme ça. Mais ça c'est des choses qabih, c'est tellement horrible que ça malheureusement, Wallah musta'an, ça aussi peu à peu ça devient accepté dans la société, mais ça va à l'encontre. Même les animaux, les couples qui se forment, ils n'acceptent pas qu'un autre mâle y vient. On regarde les documentaires animaux, les phoques, enfin n'importe quel animal, ils voient un autre mâle qui arrive, ils le chassent, ils n'acceptent pas. Ça c'est ma femelle. Même les animaux, ils ont intégré le fait qu'il y a un amour propre. Mais de nos jours, le prophète m'avait annoncé qu'à la fin des temps, l'adultère, le zina va se normaliser, va se banaliser. De nos jours, dites à quelqu'un, oui, mais attention à l'adultère ou la fornication. Dis, c'est quelle langue ça? C'est du gothique, c'est du vieux français. Adultère, fornication, copinage. Non, même pas copinage, comment il dit encore? Concubinage, pas copinage. Concubinage, c'est dans d'autres machins, ça. Concubinage. Le bourré avec le fond pendant 2 ans, 3 ans, il couche, il fait, il se change, il rentre, il sort, il change de partenaire. C'est du concubinage. Il n'y a rien de mal. D'accord? Wallah Musta'an. Ça, c'est annoncé par le prophète. Donc, dès le départ, le prophète a enseigné le sahaba al-iffa. C'est pas qu'on adore Allah, on se prosterne devant Allah, et puis tu trompes ta femme avec tu trompes ton voisin, tu prends la femme de ton voisin. Est-ce que ça c'est qualité de mu'min? Ça là, wallah. C'est-à-dire quand quelqu'un se soumet à Allah, il fait en sorte que ses relations avec Allah soient impeccables, mais que ses relations avec les gens également soient impeccables. Imaginez quelqu'un, grand barbe et tout, bien machin, religieux, et vous connaissez que les becs à droite, à gauche, vous laissez aller encore... Non! Dis, ben attends, ne sois pas hypocrite. Soit tu es religieux, soit tu es un donjon, ou tu es un je sais pas quoi. C'est-à-dire, ça c'est toute la cohérence de l'islam. Ça c'est la cohérence de notre dîne. Quand on est droite, ben on est droite, droite, droite. N'a pas qu'on est droite, et puis un petit peu à droite, un peu à gauche, et puis on prend des raccourcis, c'est là, wallah. Quand on est, on dit droite à ses bottes, on a un siratan mustaqim, c'est le droit chemin, ben on est droit dans nos obligations, dans nos devoirs envers Allah, mais également envers les créatures. C'est un respect pour sa femme que de lui être fidèle. C'est un respect pour son mari que de lui être fidèle. Après, on va parler d'autres choses, d'autres droits qui ont été développés à notre époque, mais le plus grand respect qu'on peut avoir pour sa femme, c'est de lui être fidèle. Le plus grand respect qu'un mari peut avoir pour sa femme, qu'Allah nous pardonne nos manquements, nos erreurs, c'est que quand tu marches avec ta femme, ou même tu marches sans ta femme dans la rue, tu as une jolie fille, une jolie femme, ou un groupe de filles, de femmes qui passent, tu baisses le regard, tu ne regardes pas. Tu le fais pour Allah. Parce que le regard fait partie du zina. Parce que le prophète dit que ça c'est une des flèches de Shaytan. Mais ensuite, tu le fais également par respect pour ta femme. Parce que je me suis marié avec elle. J'ai pris un engagement devant Allah après un khutbah qui a été lu avec le imam, avec des témoins, que je vais aimer cette femme. Je vais développer les qualités du mari correct, comme le prophète le développait, ou comme les sahaba y avaient avec leurs épouses. Donc, regarder une autre femme, ou essayer d'approcher une autre femme, draguer une autre femme, espérer avoir une aventure avec une autre femme, en plus d'être du zina, d'être désobéissant envers Allah, c'est un manque de respect par rapport à la dignité de notre femme. Avant de voir plein d'autres choses que notre société à cette époque ont dit, la première chose, comme on l'a dit, c'est la fidélité. La notion de fidélité, malheureusement, n'existe quasiment plus. Et en commentaire, les ulama, on va aller un petit peu plus vite, disent également que quand on parle de ce qui tourne autour de zina, il y a la mixité. Et quand on parle de mixité, il y a tous les pièges que Shaitan utilise pour nous amener vers le zina. On avait déjà dit dans d'autres majlis auparavant, hein, avec ce fameux poème en arabe qui dit attention, nadaratun wa abtisamun wa salam, etc., etc. Tout commence par un regard. Tout commence par un regard. C'est pour ça que ça me dit que c'est la flèche empoisonnée de Shaitan. Celui qui arrive à contrôler son regard, il ne sombrera, incha'Allah, jamais dans l'adultère. Parce qu'il a fermé les portes. Celui qui contrôle son regard, il ne tombe pas dans l'adultère. Parce que pour désirer une femme, il faut d'abord l'aimer. Et pour l'aimer, il faut la voir, la trouver jolie, la trouver belle. Mais si dès le départ, je contrôle mon regard, je ne risque pas de... Parce que, vous savez, le cœur de l'homme est faible. Le cœur de la femme, c'est pareil. « Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim » Dites aux croyants de baisser leur regard. Mais il y a le verset juste après. « Qul lil mu'minati yaghuddu min absarihin » Dit aux croyantes, il y a les femmes, de baisser leur regard. C'est-à-dire, la race humaine est faible par rapport à ça. Par rapport à ce qu'on appelle en arabe « al-jins », les relations. Quand un homme tombe amoureux ou a eu le coup de... Coup de claque, coup de foudre. D'abord, coup de foudre, après, coup de claque. Quand il gagne le coup de foudre, en général, on a du mal à s'en sortir. Parce que quand l'amour d'une femme a pénétré notre cœur, on devient obsédé. On ne pense qu'à ça matin et soir. Au point de déjeuner, on pense à cette jolie fille. Autant de doucher, on pense à lui. Autant de dormir, on rêve, etc. C'est-à-dire que quand quelqu'un, hein, l'amour d'une femme est entré dans son cœur, imagine pas un cas comme ça, une voisine, hein, qui est très jolie, d'accord, vous le voyez tout le matin en allant au travail, vous le regardez, vous voyez qu'on tape sa beauté, le lendemain vous attendez ce moment pour voir, etc. Dès que ça devient obsessionnel, je vous parle des choses communes, des choses concrètes qu'on peut vivre, qu'on vit, d'accord. C'est-à-dire que si dès le départ, je sais que je baisse mon regard, c'est un principe, et j'évite la première flèche de Shaitan, ben je resterai éloigné définitivement du zina. On va donner comme image, le zina c'est comme une flèche, c'est comme un harpon. Vous savez c'est quoi un harpon? C'est-à-dire une flèche avec une corde pour chasser un gros poisson. Si Shaitan a piqué ça de ton cœur, dans quelques jours, quelques années, il te tire. Jusqu'à ce qu'il te fait, il t'a dans ses mains et il te fait tomber dans le zina. C'est pour ça que, mes chers frères, le contrôle du regard est le plus important. Et la deuxième, dans la poésie, dit que d'abord ça commence par un regard, après ça passe par un sourire. Et là, Shaitan, il essaie de nous faire comprendre que non, il faut sourire. Hein, tu peux pas être mal élevé, tu es pas un homme de Cro-Magnon quand même, tu es quelqu'un de bien éduqué, tu es poli, pas gâtant, tu n'as qu'un figure comme ça. Il va dire quoi, il est constipé ou il a d'autres problèmes. Donc, Shaitan, il irait même jusqu'à vous faire comprendre que c'est là un geste religieux. On avait cité ça il y a un an et demi. Shaitan va dire qu'attention, le prophète va dire Ibtissamu ka fi wajhiki akhika sadaqa. Lorsqu'un musulman sourit à son prochain, c'est une aumône. Dis donc, souris! Fais un sourire, c'est une sadaqa. Je lui ai dit, il ne sourit pas avec moi, ça vient de passer avec Fundi. Il sourit avec le fils. Rat sadaqa avec Fundi, non, il y aura des jolies filles là. Donc, Shaitan, il veut mettre dans votre tête que souris. Souris, ça c'est une sadaqa. Et après, il y a salamun. Le premier contact. Salam alaikum. Si c'est une musulmane, autrement, bonjour mademoiselle, bonsoir mademoiselle. D'accord? Shaitan, il va te dire que, ben, après ça, m'a dit, afshu salam bainakum. En fait, répandez le salam entre vous. C'est une musulmane comme toi. Musulmane, tu es musulman. Vous avez le kalima en commun de votre cœur, tu ne fais pas salam. Tu vas à l'encontre de ton enseignement. Piège! Piège de Shaitan. Là, vous allez dire, assalamu alaikum. Il voit tout musulman, il passe, il rentre à mastide avec son tête d'enterrement. Il ne veut pas salam personne. Quand il voit le tantier, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme un pas au même grand imam la mosquée, là. D'accord? Et là, la femme, il dit, vraiment salam, wa alaikum salam. Et ainsi de suite, le premier contact est engagé. Et après, il y a kalam, il y a les paroles, et puis ça peut aller. Ça va très vite. Parce que le prophète m'a dit, lorsque deux personnes, un homme et une femme, sont seules, la troisième personne, c'est Shaitan. Et qui c'est qui dit ça? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète parle, c'est thèse à Lisa, là, c'est wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tout ce que le prophète dit, ça vient pas de lui, ça. C'est Allah qui met dans son cœur. Et qui c'est qui connaît mieux la machine humaine que Allah? Qui connaît mieux comment nous fonctionnons physiquement, notre métabolisme, que notre créateur? Qui connaît comment nous fonctionnons sur le plan psycho? Logique que Allah il a créé cet homme, Allah a créé ce cerveau, Allah a créé les sentiments, Allah a créé nos forces, Allah nous a donné des forces et des faiblesses, et Allah il sait quelle est la faiblesse commune à chaque être humain, c'est cette faiblesse par rapport à ça. Et quand le professeur Hassan dit attention, ne restez jamais seul avec une femme, parce que la troisième personne ce sera absolument Shaitan. Même si, le Rama dit, même si la femme n'est pas jolie, elle n'est pas belle, Shaitan il est tellement habile, il vous fait voir une femme pas jolie comme étant la plus belle des femmes. Et on pourrait rajouter que de nos jours, avec les maquillages, avec les, comment ils appellent ça, les strass, avec les brushing, avec les toutes les couleurs, parfois c'est maquillage, parfois c'est la peinture, même ils mettent comme un rouleau, même. Avec tout ça, n'importe quel ton albacore peut paraître comme une sirène. N'importe quelle femme peut être magnifique, jolie. Mais attends, quand il lève demain matin, fait une tierce aux peintures, fait une tierce aux vernis, fait une tierce au lustrage et tout, ben, on dit, oups, c'était ça. D'accord? Mais après avoir mis tout ça, ben, la femme devient belle. Ce qui veut dire que, on ne peut pas se dire que, non, mamie, il regarde pas tout, mais comme il voit une jolie fille, il baisse le regard. Non, ça marche pas. Parce que, on va dire que la plupart des femmes de nos jours sont belles, avec tous les moyens, tout ce qu'il y a comme produits cosmétiques, et les crèmes anti, pour pas avoir des rides, je sais pas comment on appelle ça, d'accord, alhamdoulilah, je connais pas aussi. Donc, avec tout ça, toute femme peut pas. Et de nos jours, on va dans ce sens que, n'importe quelle femme qui sort de chez elle, elle essaie d'être la plus belle possible parce qu'elle a besoin de se sentir regardée. Alors que dans l'islam, on nous enseigne baisser le regard. Mais dans la société, on nous enseigne que, enfin, on a intégré ça, on a intégré le fait que il faut que quand je marche, hein, les hommes me regardent. Si les hommes me regardent, ça veut dire que je suis belle. On a confiance en nous. Alors que dans le dîn, la femme baisse son regard, la femme se couvre correctement. C'est-à-dire que la beauté, c'est pas uniquement tes cheveux, tes yeux et tout. La beauté, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pour ça qu'on est tous égaux. On a tous nos chances. La femme qui fait 1m80 avec tellement, 80 un peu longue quand même, hein, qui fait 1m70 avec telle mensuration, la femme qui est plus petite, qui est plus grosse, la femme de nos jours dans la société, une femme qui fait 1m55, qui fait 75 kilos, personne ne regarde pas lui. Parce que la pauvre, elle est obligée de mettre des trucs moulants, des trucs comme tout le monde, pour rester un peu dans le jeu, dans le match, pour pas perdre du terrain. Et que tout le monde, il regarde, dit, ben, hey, c'est orange, ah, ouais, boucherie, d'accord? Alors que celle qui a tellement, mais ça, c'est de l'injustice, ça. Qui a créé cette femme? C'est Allah. Et quand une femme se couvre correctement, avec des vêtements décents, avec un châle, ses cheveux sont couverts, mais La beauté qui reste, c'est la beauté intérieure qu'un homme va connaître après le mariage en épousant cette femme. Il y a des fois où on peut être séduit par une femme en parlant avec elle, en voyant les qualités spirituelles qu'elle a, et même si elle n'est pas très jolie, alors que d'autres femmes peuvent être très jolies, mais avoir un comportement de mufle, vraiment un comportement horrible, aucun akhlaq, comme l'islam nous enseigne, et on est vitement, rapidement dégoûté de ça. Combien de personnes, on connaît, hein, qui ont voulu se marier avec telle jolie fille qui avait les cheveux blonds, en fait la teinte, hein, les yeux bleus, et maintenant petit, et que le teint qui était comme ci, comme ça, parce que c'est la plus jolie. Parce que nous, on a intégré la conception de beauté de tel, comment on fait ça, tel mannequin, tel truc et tout qu'on voit à la télé. Donc, je veux une femme qui est comme ça. Et après 2 ou 3 ou 4 mois de mariage, on se rend compte que c'est quelqu'un d'insupportable. Elle est peut-être jolie, il y a certains avantages, mais il y a tellement d'inconvénients parce que on vit pas avec elle que pour sa beauté. On vit avec elle au quotidien, 24 heures sur 24. On doit supporter ses sauts d'humeur, ses traits d'humeur, son éducation. Et là, on se rend compte que vraiment, la beauté, c'est la beauté du cœur. Quand le prophète me dit que quand on regarde une personne pour se marier, on s'éloigne du sujet, la première chose qu'on doit regarder, c'est le din. Ensuite, la beauté, ensuite, sa situation, etc. Dit celui qui a eu une femme avec le din, c'est un homme qui a tout gagné. C'est un homme heureux. Donc, bref, pour revenir à ce qu'on disait, parmi les enseignements dès le début que le prophète avait donné aux musulmans, c'est al-ifaf, la chasteté. Le fait de respecter sa femme et de respecter la femme des autres. Et ce sahaba, un jeune sahaba, une fois qui était voir le prophète sallam, un jeune homme. Vous savez, les jeunes à notre époque, il ne faut pas qu'ils croient que les sahaba à leur époque, ils étaient surhumains. C'était des êtres humains avant tout. Un jeune homme va voir le prophète sallam, un jeune homme qui est tombé, apparemment on peut dire comme ça, amoureux d'une jeune fille. Et il a envie de faire l'adultère, le zina avec cette jeune fille. Et il dit au prophète d'Allah, donne-moi l'autorisation de faire le zina. Au prophète d'Allah, décrète que pour moi, aujourd'hui, c'est autoriser le zina. Les sahaba, ils ont entendu ça, ils étaient énervés, ils trouvent la manche. Il n'y a pas honte. Il vient demander ça, le prophète sallam. Mais, aoud billah, quel manque de respect. C'est comme si que un élève va voir Fundi, il dit que Fundi, même tant il l'a, dis-moi, tiens, fatwa, que mi peut coucher avec lui ce soir, et demain, il vient, on dit, moi, qu'on n'a pas de péché. Le Fundi fait quoi, coup de bâton? Il dit, mais ça va pas ou quoi? Ça, c'est pas dit de mon papa, ça. Ça, c'est la religion d'Allah. Ça, c'est sharia d'Allah. Kalamullah wa la taqrabu zina. Donc, ce jeune homme va voir le prophète sallam. Les sahaba, ils sont offensés. Ils disent, comment est-ce qu'il peut oser dire une telle parole? Et le prophète sallam ne l'a pas chassé, ne l'a pas insulté. Le prophète alayhi salatu wassalam va lui faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un mari qui sait que sa femme l'a trompé. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un papa qui sait que sa fille a eu des relations avec un garçon? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un frère qui sait que sa sœur a eu des relations avec le garçon, du coup, avec tête, etc., etc. Le prophète va dire à ce jeune homme, il écoute et dit, est-ce que tu accepterais que quelqu'un fasse ça avec ta mère? Il dit, na'ou depuis là, prophète d'Allah, jamais je n'accepterai telle chose. Si je connais que quelqu'un l'a fait la duté avec mon maman, mais ça, choutali, il n'est pas possible, c'est inacceptable. Il a montré sa colère. Et est-ce que tu accepterais que quelqu'un fasse ça avec ta sœur? Il dit, jamais au prophète d'Allah, inacceptable, etc. C'est vrai, il a cité en exemple, hein, j'ai plus en tête le nombre de personnes qu'il a cité, toutes les membres de la famille, féminins. Et là, à la fin, le prophète l'a fait comprendre que tu sais, si tu n'aimes pas que quelqu'un fait ça avec ta maman, ni avec ta soeur, ni avec ta fille, ni avec etc., etc., sache que les autres aussi sont pareils. C'est-à-dire que si tu vas faire l'adultère avec telle femme, telle personne, elle est soit la maman de quelqu'un, soit l'épouse de quelqu'un, soit la fille de quelqu'un, soit la soeur de quelqu'un, soit la nièce de quelqu'un. Tu n'aimes pas ça pour toi? Ben, sache que eux aussi n'aiment pas ça pour eux. Le sahaba, ce jeune homme a immédiatement compris. Il a dit qu'à partir de ce jour, il a dit au prophète d'Allah, fais doigt qu'Allah enlève ça de mon cœur. Le prophète a fait doigt pour lui. Il a dit qu'à partir de ce jour, le zina est devenu le péché le plus détestable à ses yeux. Le prophète me fait comprendre pourquoi c'est quelque chose qui est inacceptable. Je me rappelle une fois, il y avait une personne, hein, qui, on sort un peu du sujet, hein, qui était en conversation avec un Français, hein, très Français, d'accord, éducation à la française, occidentale, hein, qui lui parlait un peu, dit, ouais, chez vous les musulmans, vous êtes contre la mixité, mais vous êtes encore un mode de vie archaïque, hein, vous faites les mariages, les messieurs à côté, les femmes à côté, mais vous ne vous amusez pas, c'est quoi, vous pensez que les femmes sont inférieures, vous êtes supérieures, c'est quoi, vous êtes machiste, vous êtes misogyne? Elle a dit, c'est rien de tout ça. Elle a dit que toi tu es pour la mixité, dit, bien sûr, nous on est un peuple beaucoup plus ouvert, beaucoup plus respectueux. Pour eux, c'est le respect des femmes, ça. Après, dit, tu es marié? Tu dis oui. Il dit, ça te fait quoi de savoir que ta femme couche avec ton collègue? Elle dit, Sophie, gueule assise. Parce que c'est quelque chose qui certainement était arrivé. Dans la plupart des couples, ça arrive, hein, ceux qui n'ont pas iman. Et immédiatement, il s'est rendu compte que c'est quelque chose d'horrible, d'inacceptable. On peut être aussi ouvert d'esprit, mais quand on sait que ma femme m'a trompé, c'est une catastrophe, c'est une cassure. C'est comme si que on a violé notre intimité, on a brisé le lien de confiance qu'il y avait entre moi et ma femme. Et là, la personne a stoppé net la conversation. Elle a réalisé que, il a compris, la personne dit que c'est à partir de la mixité qu'a lieu tous les débordements, qu'a lieu toutes ces choses. C'est pour ça que nous prenons des précautions, que notre dîne a fermé les portes à tout ça par le biais de Al-Iffa, de la chasteté. On va terminer le hadith, dit que, on parle de, il y avait une autre qualité ici qui dit que de se montrer toujours, on veut dire, indépendant des gens. Il y a deux types de iffa, il y a la chasteté, et puis il y a al-iffa fi an shahwat al-batn, c'est-à-dire de ne jamais, en résumé, pour aller plus vite, de ne jamais demander aux gens quoi que ce soit. Hein, de se montrer digne. La dignité par rapport également aux relations avec les biens, ne jamais tendre la main dans la mesure du possible. Et dans ce hadith, le prophète alayhi salat wa sallam dit, al-yad al-ulya khayrun min al-yad al-sufla, la main qui donne est mieux que la main qui reçoit. Le hadith du prophète dit qu'al mu'minul qawi ahabbu ila Allah min al mu'minid da'if wa fi kulli khair. Le musulman qui est fort, il est plus aimé par Allah que celui qui est faible, mais dans les deux il y a un bien. Dire que quand quelqu'un, hein, alhamdoulilah, il travaille, hein, il est indépendant, il se suffit de ce qu'il gagne, il n'a pas besoin de tendre la main, ça c'est une qualité appréciée par Allah. Le hadith dit que le meilleur salaire qu'un musulman mu'min peut avoir, c'est celui qui va avoir la sueur de son front. Quelqu'un qui sort le matin, qui travaille, qui ramène rizq halal, subsistance halal pour sa femme et ses enfants, ça c'est un ibadah ça. Quelqu'un qui gagne de l'argent avec son travail et qui va faire les courses, qui achète à manger, ils achètent le lait, ils achètent le pain, ils achètent tout ce qu'on a besoin de manger, avec niyat que je fais ça pour Allah, c'est sadaqa. Pourquoi c'est sadaqa? Parce que c'est ton devoir de mari. Ça fait partie des devoirs du mari, donc tu remplis un devoir auprès d'Allah Azza wa Jal, tu le fais pour Allah, ce sont là des récompenses, ce sont là des bonnes actions. C'est pour ça que le prophète dit « Wa idha sa'alta fas'alillah » quand tu as besoin de demander, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, il expliquait que les sahaba, « Inna sahaba bay'u » ils ont fait l'engagement au prophète sallam, « Allah yas'alu an-nas shay'a » ils ont fait l'engagement au prophète sallam dès le départ, le serment d'allégeance, de ne jamais se rabaisser pour demander aux gens. « Hatta yakuna sawtu ahadihim yasqutu min ala rahilati wa la yaqulu li ahad nawlini as-sawt » il a dit que même quand ils étaient à cheval, si leur bâton tombait, ils descendaient, ils attrapaient. Ils ne se faisaient pas servir. Ils disaient pas quelqu'un, hey, attrape ça pour moi, hey, fais ça pour moi. Ça, c'était une des qualités que les Sahaba avaient et qui était enseignée par le prophète. Ne jamais, dans la mesure du possible, ne jamais demander quoi que ce soit aux gens. Ça fait partie du zuhd. On appelle ça az-zuhd wa amma fi yadin nas. Il dit que quand on arrive à cette situation où on ne demande rien aux gens, les gens vont finir par vous aimer. Les gens estiment une personne qui ne demande jamais rien. Ça, c'est une qualité que les Sahaba avaient, que le prophète les avait enseignés. Et là aussi, les ulama disent que ça, c'est la dignité humaine, ça. Ça, c'est la dignité humaine qui est enseignée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, dernier point, cité de le hadith, wassila, fin du hadith. Et le prophète nous enseigne également de garder les liens d'entretenir les liens de parenté. On a 50 minutes, on va terminer. D'entretenir les liens de parenté, ça c'était dès le début de l'islam. Être un bon mu'min, c'est celui qui se prosterne, qui fait la salat, le ramadan, etc. Mais c'est également celui qui garde des bonnes relations avec son papa, avec sa maman, avec ses frères, avec ses soeurs, avec sa famille. Ne sera jamais un bon musulman celui qui a rompu les liens avec ses proches. Jamais de la vie. Même s'il est tous les jours à la masjid du matin jusqu'au soir, il jeûne tous les jours, tous les matins, il fait le qiyam ou le tahajjud tous les soirs, mais s'il a rompu les relations avec son papa ou sa maman, c'est un homme mort spirituellement. Le prophète dit, la yadkhulul jannata 'aq, celui qui a désobéi à ses parents ne pourra pas accéder au paradis. Il ne peut pas accéder au paradis. Même s'il est devenu un homme extrêmement pieux, cette piété-là ne vaut rien s'il n'a pas eu le contentement de son papa ou de son frère. Ça me dit que le paradis se trouve sous le pied de la maman. C'est-à-dire que, adore Allah, fais les efforts, mais si tu n'as pas le contentement de ta maman, tu n'as pas le contentement de ton père, c'est peine perdue, la personne ne pourra jamais accéder au paradis. À tel point que le prophète, Allah t'a dit, nous connaissons également, quand quelqu'un a des parents non musulmans, وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. Quelqu'un s'est converti à l'islam. Ses parents ne sont pas musulmans. Il doit avoir le même respect pour eux que si ces gens-là, si ses parents étaient devenus musulmans. Il n'y a pas de différence parce que ça reste ton papa, ça reste ta maman. Au nom de quoi ? Il y a des jeunes, je connais, ils se convertissent, ils claquent la porte, disent « Ouais, bon, moi je suis musulman, toi tu es dans l'enfer, vous allez dans l'enfer, vous êtes des koufars et je ne reste pas avec vous. » Na'oudou billah, qui c'est qui t'a mis au monde ? Qui c'est qui a hurlé pour te mettre au monde, qui a risqué sa vie ? C'est ta maman. Qui c'est qui, jusqu'à que tu atteignes cet âge, 15, 17, 18, 20, 35 ans, il a travaillé pour te donner à manger ? Il a travaillé pour te donner ton rizq. C'est ton père. Au nom de quoi on abandonne le papa et la maman? Donc dans le Coran, l'ordre est donné de respecter, de rester proche d'eux, sauf s'il vous ordonne de faire le shirk. S'il te dit de faire tel péché, par exemple vous êtes à table avec papa, maman qui ne sont pas musulmans, vous restez avec, à table avec eux, vous mangez avec eux, vous avez le même respect que pour d'autres parents, sauf s'il te dit, bah, bois un peu d'alcool, mange du porc. Là on dit non. Là on dit non. Fala tuti'huma, mais... mais agis correctement, vis correctement, bonne relation, bon terme avec eux. Ça, c'est un principe de la religion, une des premières choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux sahaba. Puis en commentaire, les muhaddithines disent que maintenant les relations familiales, plus c'est proche, plus on doit avoir de relations. Comprenez que avec ma maman, je dois avoir plus de proximité qu'avec ma tante ou qu'avec ma nièce. C'est logique ça. D'accord ? Plus c'est proche, plus on a des relations. Après, il dit que par rapport à la famille un peu éloignée, il faut analyser. Il y a des gens, par exemple, si on a un neveu ou un tonton, quelqu'un qui est aisé, qui est riche, qui est en bonne santé, qui n'a besoin de rien, ben, une fois de temps, on lui rend visite, c'est bon. Mais si on a un tonton, pareil, mais qui est malade, ou qui a des problèmes financiers, là on a plus de devoirs envers lui. Parce qu'on doit aller le voir plus souvent, on doit l'assister, on doit l'aider financièrement. Vous savez, garder de bonnes relations, ce n'est pas juste dire salam, ça va, tu vas bien, besoin de quoi que ce soit. C'est également aider financièrement. Vous avez des proches qui ont des problèmes financiers, ils ont des dettes, ils n'arrivent pas à payer le loyer, à payer leurs factures. C'est mon devoir. C'est mon devoir de leur venir en aide. Sans pour autant qu'après, chaque fois, bah, les enfants, le tonton, la nièce, ça paye mon facture. Non, mais ça l'entraide. La fraternité, la muhabba avec les proches, ça c'est un devoir de les aider, de les assister également financièrement. Donc il dit qu'après, plus on s'éloigne, après c'est en fonction des relations, en fonction de la situation de la personne, mais surtout ne pas attendre les deux fêtes pour voir sa famille. Il ne faut pas que uniquement Eid et Eid al-Fitr al-Adha, Eid Bakrin, on attend pour voir tel tonton, tel tati, tel nièce, neveu. Non. Il faut faire en sorte qu'on se réunisse souvent. Et malheureusement, dans notre société, on est tellement, on va finir, on est tellement individualiste hein, qu'il y a peu de familles, il y a peu de familles encore où on se réunit une fois par semaine et tout, où tout le monde est à table, tout le monde mange ensemble, discute, c'est très rare. Ça, avant il y avait, je pense dans toutes les communautés, dans la communauté indienne, ça y avait tout le temps, je pense que dans la communauté comorienne, mauraise également, mais ça finit par se perdre. Vous savez pourquoi ça se perd ? Parce que nous faisons le culte de l'argent, le culte du succès individuel. On t'apprend à l'école, tu dois avoir tel métier, tu dois réussir. Regarde pas les autres, toi tu dois réussir. Tu dois avoir tel métier, tu dois gagner de l'argent, tu dois être heureux, tu dois être épanoui. Et les autres, c'est pas important ça. Et plus on va de ce sens, plus on perd les valeurs fondamentales. On perd les relations humaines. On parle d'une société humaniste. Humaniste, c'est quoi? C'est pas juste que dit il faut pas tuer les baleines au Japon, il faut pas le gaz de schiste, il faut pas attention à la couche d'ozone, il faut pas telle affaire pollue. Je suis bien d'accord. C'est bien tout ça. Mais être humaniste, c'est avant tout respect de papa au moment. C'est pas sur Facebook on a 1000 camarades. C'est pas que sur Facebook on a je sais pas combien de mouniamaou, il poke à où, il envoie un message, il envoie une notification, il aime tout ce que vous écrivez, tout ce que vous publiez comme photo. Relation humaine, c'est pas ça. Relation humaine, c'est d'abord être reconnaissant, être proche avec ses parents. Ça, c'est Islam et ça, c'est insan. Ça, c'est la religion d'Allah, ça, c'est l'humain. C'est ça le vrai humaniste. Si quelqu'un revient vers les bases de son dîn, il devient vraiment un modèle pour l'humanité. Donc, nous voyons à travers ce hadith qu'on a vu aujourd'hui, entre Abu Sufyan et l'empereur romain, quels étaient les principes de base, l'unicité d'Allah, l'accomplissement de la prière, être véridique, la chasteté, ne rien demander aux gens et garder de bonnes relations avec tout le monde. Ça, c'était les premiers enseignements que le prophète m'a donné aux sahaba. Et c'est là les qualités d'un être humain. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre hein, les quelques hadiths que, bismillah, on a pu citer, on a pu commenter. Et qu'Allah nous accorde surtout ces qualités qu'on puisse les mettre en pratique pour devenir de vrais croyants et qu'on soit parmi les véridiques. Jazakumullah khair. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.